1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Comment vas-tu?
Ça va, encore pour l'instant.
Pour l'instant?
Ouais, et toi?
Bah aussi, pour l'instant, à l'aune d'un possible reconfinement, parce qu'il faut dire que quand on enregistre là...
Pour l'instant, on ne sait pas. On est dans l'attente.
On sera dans quelques heures. On va profiter de pouvoir encore enregistrer des émissions.
Dans des conditions normales,
pour... cette thématique du mois de novembre 2020, homoparentalité.
Allez, chiche.
Chiche, dans ce nouveau monde qui émerge.
Pourquoi, il a un peu de mal à émerger.
Il a du mal à émerger, ce nouveau monde. On l'appelle de nos voeux, c'est un peu compliqué, mais bon. L'homoparentalité, bon, ça fait un moment que ça existe malgré tout, mais je pense que c'était bien de faire un mois autour de ça et de... faire une sorte d'état des lieux.
Ouais.
Il y a plein de clichés autour de ça.
Ouais, plein de clichés, plein de peurs, plein de...
Ouais.
Plein de non-connaissances.
Oui, oui, exactement. Du coup, effectivement, j'ai essayé de recenser un peu les clichés qu'il pouvait y avoir autour de l'homoparentalité. Et en gros, j'en voyais deux, trois types. Il y en a peut-être d'autres, mais moi, c'est ce que j'ai essayé de synthétiser. Ouais. Déjà, il y a des clichés clairement qu'on peut qualifier d'homophobes, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on peut entendre parfois que les enfants d'homoparents risquent des abus sexuels. Tu l'as déjà entendu, ça, j'imagine.
Oui, bien
sûr. Que les homos ne sont pas forcément compétents pour élever des enfants. Pour faire la fête, oui, mais pour élever des enfants, ce n'est pas évident. Et les homos font des homos, c'est bien connu.
Oui.
Hein?
Ouais. D'ailleurs, nous sommes tous nés de parents homos.
C'est ça.
Enfin, je sais pas, nous, les homos, on est tous nés de parents homos.
C'est ça. Après, il y a des clichés qui sont pseudo-scientifiques.
Ah.
Genre, on a aucun aucun recul.
Qu'est-ce qu'on a au cul?
On n'a aucun recul sur l'homoparentalité. Il n'y a pas d'études scientifiques. Ça n'existe pas depuis suffisamment longtemps. Alors que les premières études, elles datent des années 60-70. Hein. Pas forcément en France, mais aux États-Unis, il y en a déjà à cette époque-là. Les enfants d'homo risquent d'être... confus dans leur rapport au genre ou avoir des troubles affectifs et comportementaux beaucoup plus importants.
Oui, bien sûr. C'est les enfants d'homo qui remplissent les cabinets des psys actuellement.
C'est bien connu.
Il n'y a que eux.
Ouais. Et puis il y a des
clichés. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y a une étude danoise qui était sortie et ils avaient étudié combien de risques il y avait pour un enfant d'aller voir un psy, d'un jour dans sa vie fréquenter un cabinet de psy, suivant s'il était élevé par des hétéros ou par des homos. Ouais. Et en fait, ils avaient calculé que il n'y avait aucune incidence de plus, et que même à la limite, il valait mieux être élevé par un couple de lesbiennes, que là, c'est là où on avait le moins de risques de rencontrer un cabinet de psy dans sa vie.
C'est ce que montre un certain nombre d'études, tout à fait. Et puis, dernier registre que j'ai identifié, c'est des problématiques de vie en société. C'est-à-dire que le risque pour des enfants d'homo, c'est de vivre dans des microcosmes ou de ne pas avoir de modèle de représentation de sexe autre que ceux de ses parents. Enfin bref, voilà. C'est un truc qu'on entend beaucoup. Ouais.
Alors que le... En fait, ce qui est embêtant, c'est pas l'homoparentalité en elle-même, c'est pas elle qui crée des problèmes, c'est mmh. plus les autres autour qui pointent du doigt, tout qui montrent,
ouais, ouais.
Et, mmh. Et qui crée en fait, ces problèmes, ces problématiques,
oui.
ce mal-être.
Une problématique de la, bah, de la différence l'autre. Hein,
bah,
de
oui.
l'autre. Ouais. Pour commencer, parce que on... Je trouvais ça bien de faire quelque chose autour de la parentalité, de le mettre en lien aussi avec la loi sur la bioéthique qui a été votée en juillet 2020.
Mm-hmm.
Et il y a un son qui a été fait par cette chaîne qu'on aime bien, Datagueule,
ah oui.
autour justement de la parentalité autre que hétéro. Et ouais. je te propose qu'on en écoute un extrait et on en discute après, comme on fait habituellement.
On ne naît pas parent, on le devient. Bonjour. 151 611 tentatives d'aide médicale à la procréation en 2017. 300 000 enfants nés par PMA entre 1981 et 2014. En France, un enfant sur 30 est bercé dans une éprouvette. Une sacrée disruption dans la reproduction. Et il y en avait besoin. D'après l'INSERM, un couple sur 8 consulte pour difficultés de conception. Quand la grossesse ne survient pas au bout de 12 mois de rapport non protégé, le diagnostic d'infertilité tombe. 15 à 25% des couples hétérosexuels seraient concernés. À quoi s'ajoutent les changements de société, vieillissement de population et évolution des carrières qui repoussent l'âge moyen de la maternité. Entre 1974 et 2018, il est passé de 26,8 ans à 30,6 ans. Mais trêve de baby blues. Le 25 juillet 1978, au Royal Oldham Hospital, au Royaume-Uni, survient un heureux événement. Louise Brown, née de la première fécondation in vitro. À ce traitement conçu pour les dysfonctionnements des trompes utérines, d'autres s'ajoutent pour constituer la panoplie de la procréation médicalement assistée ou PMA. Dans les années 80, les médecins l'utilisent pour accompagner toutes les femmes, seules ou en couple, hétéro ou lesbiennes. Une parenthèse enchantée, qui va bien vite se refermer. En 1988, le Conseil d'État publie le rapport Brébant, qui pose que les structures naturelles de la parentalité doivent être la base de toute réglementation sur la procréation. Deux parents et pas un de plus. Deux parents et pas un de moins. Sic. En 1994, les premières lois de bioéthique française posent un des cadres les plus rigides d'Europe pour la PMA. Ne peuvent y recourir que les couples hétérosexuels mariés en âge de procréer pouvant attester de 2 ans de vie conjugale. La parentalité à la française était née. Félicitations. Oui, mais un enfant a besoin d'un papa et d'une maman pour s'épanouir. La belle idée reçue. Dans une étude parue dans la revue Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, les auteurs et autrices ont analysé 16 publications sur le développement psychologique d'enfants élevés par des couples hétéros ou lesbiens. Dépression, anxiété, estime de soi, compétences sociales, conclusion: sexe des parents et structure familiale ne semblent pas influer sur le bien-être de l'enfant. À croire que les gosses veulent juste qu'on prenne soin d'eux, les ingrats. Pour contourner le barrage des lois bioéthiques, les femmes tentent leur chance ailleurs, en Belgique et en Espagne notamment, où la PMA est légale pour les femmes seules depuis 2007 et 1977. Légale, mais pas gratuite. Pour un essai d'insémination avec don de sperme, comptez 500 à 2500 euros. En France, la Sécu rembourse à 100% 4 tentatives de FIV et 6 d'insémination artificielle aux femmes en couple hétéro jusqu'à 43 ans. La différence se paie cher. En 2013, la loi sur le mariage pour tous ouvre le droit à l'adoption de l'enfant de l'autre. Pour les femmes, la mère d'intention doit produire témoignages et photos prouvant sa parentalité, subir une enquête de moralité. Un processus qui peut durer jusqu'à 1 an pendant lequel elle est privée de tout droit sur son enfant. Rien de tout cela pour les hétéros. Pas besoin de mariage pour commencer. Le code civil ouvre aux hommes la reconnaissance par présomption. Une signature en mairie, et le voilà papa. Depuis 2005, les enfants de couples mariés sont devenus minoritaires. En 2018, 60,4% des bébés naissaient dans le péché. Et pour les enfants nés hors couple, bienvenue au principe du ni vu ni connu. Si une femme a un enfant sans déclarer de père, n'importe quel homme peut le reconnaître en mairie. Sans mariage, ni preuve de soins, vous avez demandé l'égalité? Ne quittez pas. Égare à qui coche en dehors des cases. Prenons au hasard les personnes trans, hommes nés femmes ou femmes nés hommes. Beaucoup disposent de gamètes et d'un appareil reproducteur à même de leur permettre d'avoir des enfants. Les personnes souhaitant modifier leur sexe à l'état civil devaient produire un certificat médical attestant de leur stérilisation jusqu'à la loi du 18 novembre 2016. Mais ce n'est pas pour autant que la liberté à disposer de leur corps a été reconnue. Depuis septembre 2019, le projet de loi pour la révision des lois de bioéthique est en débat au Parlement. Censé ouvrir la PMA à toutes, il ne mentionne pas les personnes trans et refuse la présomption de parentalité aux couples homosexuels. Qui protège-t-on au juste ? Sous couvert d'une naturalité mythifiée qui nie l'évolution de la médecine et de la société, le législateur perpétue une société bien genrée et bien rangée. Et les discriminations qui vont avec ? En retirant nature et tradition de la notion de famille, ces identités et amours jugés marginales font vivre d'autres liens. Le type de lien a même de tisser une société d'égalité.
C'est un beau son, hein ?
Ouais.
Je trouve que c'est un beau son.
Ça a le mérite de remettre les points sur les i.
Ouais. Hein ? Remettre les pendules à leur place aussi, c'est
voilà,
pas mal.
Voilà, c'est ça. ok, donc je sais pas, t'as envie de réagir sur un point plus particulier ou
Oui, en fait, le premier truc qui me vient à l'esprit, ouais. Il y en a 50 000, mais celui-là, c'est la rupture d'égalité et l'espèce ouais. d'hypocrisie qui fait que on avance à chaque fois, mais à moitié. Sur le chemin de l'égalité, qu'on avance, mais qu'il y a toujours des trucs sur lesquels les homos, ils ne sont pas comme les autres.
Ouais.
Et qu'on entretient ça, en fait, même en faisant semblant d'avancer. Et que quelque part, c'est décourageant.
C'est décourageant, ouais. Et c'est assez particulier, je trouve, à la France, hein, parce que... Notamment, c'est dit dans le son, ces lois autour de la bioéthique, elles sont posées dans un cadre extrêmement restrictif en France depuis certain temps maintenant.
Les premières lois bioéthiques.
Ouais. Alors que aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, les avancées sont beaucoup plus notoires et ça semble être beaucoup moins problématique que de faire entendre et reconnaître qu'il y a des formes de parentalité différentes et que du coup il faut les légiférer autour de ça quoi et donner effectivement la possibilité parce que c'est des familles différentes, il en existe, hein, on le sait tous, on aura des témoignages après dans l'émission.
Il en a toujours existé et la famille idéale papa, maman, enfant, elle existe très peu en fait.
Elle est plus finalement, elle est plus majoritaire aujourd'hui.
Et la deuxième chose qui me frappe, c'est ce côté naturel. Tu vois, ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Sauf que ce qui est naturel, enfin, souvent quand on met en avant les lois de la nature, déjà on ne sait pas de quoi on parle.
Oui.
Parce que quand on étudie vraiment les lois de la nature, par exemple les animaux, hein, qui sont très loin de l'état de culture quand même, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qu'on pense, que l'état naturel des choses, tel qu'on le décrit et tel qu'on le conçoit, c'est une fiction.
Oui, c'est une convention.
C'est vraiment une fiction et que du coup, ça pousse à quand même beaucoup de conservatisme. C'est-à-dire c'est vraiment le support, l'alibi. À beaucoup de conservatisme.
Exactement. Pause musicale.
Allez.
Your body changes everything. You are tear you fit beneath me and you're breaking like a wave. Your body changes everything, I can hardly breathe. And now you're right above me and your shadow suffocates. Can you feel my love? Do you feel the same? Can you feel the sun like honey? The camera could wait. Give me your whip on the sun. Hold me up, I'm falling down.
Quoi?
Perfume Genius, qu'on a déjà passé ici.
C'est vrai?
Your body changes everything.
Waouh! Ça, c'est cool.
C'est pas mal, hein, comme
ouais,
idée.
Ouais.
Un témoignage? Je te propose un petit témoignage.
Ah, je crois que tu me demandais de témoigner, mais j'ai pas d'enfant,
bah, c'est,
moi.
C'est vrai? non, bah là, pour le coup, j'ai trouvé un site en faisant des recherches pour l'émission que je trouve intéressant.
Oui.
Ça s'appelle Papa Papou.
Ah.
Et bon, il y a différentes vidéos. Et notamment, enfin, pour moi, la partie la plus intéressante de ce site qui est fait par un couple de gays. Enfin, l'un des deux s'occupe du site. En fait,
ah, l'un des deux est gay, l'autre non.
Oui, peut-être, je ne sais pas. Décollons les étiquettes. En tous les cas, ce mec fait un tour de France des familles... j'allais dire homoparental, mais c'est même réducteur des familles autres que hétéro-parentales.
Ouais.
Et là, en l'occurrence, je te propose qu'on aille visiter alors Sandrine, Barbara et Zoé. J'en dis pas plus, on écoute et on en parle après.
Yes.
Si on devait se dire un leitmotiv de famille, c'est, ouais, c'est rire, avoir du plaisir, c'est vivre en fait, quoi. C'est profiter de chaque instant, c'est embrasser la vie.
Sandrine et Barbara sont les mamans de Zoé. une petite fille de 3 ans et demi, une famille bien dans ses pompes qui a des tas de trucs à nous raconter. Alors on y va tout de suite.
Dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Là?
Ce qu'il faut que je le vois sur...
Là?
Ah
là.
Alors, on se connaît depuis 13 ans, si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait, on a été amis longtemps avant d'être amoureuses.
Et là, on va fêter nos 4 ans de mariage, bientôt.
Voilà, mon grand amour, il était à côté de moi depuis très longtemps, je le savais pas, et puis les choses se sont faites très naturellement, en fait.
Et il y a une journée qui n'était pas comme les autres, où on devait, pour anecdote, se faire une piscine entre amis. Et puis, je vais chez Sandrine, elle ouvre la porte, et là, l'une comme l'autre, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Et c'est le soir même qu'on est sortis ensemble.
Parce qu'on ne s'est plus regardé comme on se regardait avant, en fait. C'est vrai qu'il y a vraiment eu quelque chose de très mystique ce jour-là. J'étais déjà maman d'un grand garçon, d'une de mes anciennes vies. Donc j'ai un fils de 24 ans bientôt. Et pour moi, il était clair que je ne voulais plus du tout avoir d'enfant. Je crois que c'est vraiment Barbara, pour moi, qui a fait toute la différence.
Avant Sandrine, la question s'était posée, mais ça ne s'était pas fait. Et quand on s'est mis ensemble, moi, je savais que Sandrine ne voulait plus d'enfant. Et c'est vrai que, bon, la question est revenue très naturellement avec ce désir d'enfant. On avait même le désir d'une petite fille. Donc, on a eu une petite fille. Mais bon, c'est arrivé très naturellement, en fait.
C'est moi qui ai mis le sujet sur la table. C'est moi qui ai dit, je veux qu'on ait un enfant ensemble. Alors que j'en voulais pas, mais je pourrais même pas l'expliquer, en fait. C'est ça qui est très bizarre.
Ça a été une envie de nous deux d'avoir cet enfant.
T'as pas eu besoin de me dire, allez, j'ai un enfant.
Non,
ça s'est fait tout seul. C'était sûr que c'était Barbara qui porterait l'enfant. Parce que moi, pour le coup, autant j'avais changé d'avis sur l'idée d'avoir un enfant, autant pour moi, c'était très clair que je ne porterais pas ce deuxième enfant.
Effectivement, moi, j'avais envie que ça se passe de manière la plus naturelle possible.
Tout fonctionne très bien, elle a une santé nickel, elle fait du sport et tout, donc on se dit, bon, bah c'est bon, tout va bien marcher, en plus on s'aime, c'est parfait, tout va bien, tout est hyper top entre nous, donc il n'y a pas de raison. On se dit que nos anges gardiens, ils sont là, donc en plus, ils vont nous aider. Et puis, on essaye la première fois, puis la deuxième, puis la troisième, puis on commence à se dire que ça va être plus difficile que ce qu'on s'imaginait. Et puis, il y a eu la quatrième.
Après l'échec de la quatrième tentative, moi, je me suis un petit peu effondrée en me disant, je prenais conscience que ça pourrait ne pas marcher. Et qu'on pourrait être, finalement, comme beaucoup de couples pour qui attendent des années. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il va falloir une stimulation hormonale ou une fille, vraiment. Et en fait, gros cracus. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas me faire accompagner aussi psychologiquement. Moi, je travaille en psy, donc pour moi, ça aurait été tout à fait naturel. Et en fait, je ne sais pas si c'est le fait que ça ait lâché quelque chose qui se soit passé, mais en tout cas, à la cinquième tentative, ça a marché. Voilà.
Alors pour nous, c'était très important qu'on puisse avoir un donneur de typologie africaine, parce qu'on est un couple mixte, et que c'était important qu'elle nous ressemble à toutes les deux. Donc, vu que c'était Barbara qui la portait, on n'a pas du tout évoqué la possibilité qu'on puisse, moi, me prendre des ovocytes pour les inséminer à Barbara. Bon, ça, c'est pas du tout quelque chose qui nous a traversé l'esprit. Parce que, pour le coup, j'étais OK, mais je voulais quand même en faire un minimum. Et le médecin qu'on a rencontré à notre première visite à Gante, on lui a tout de suite fait part de cette spécificité, si on peut dire ça comme ça. Et elle a regardé tout de suite dans le centre de dons, il y en avait un, on a bloqué direct, on a fait « c'est pour nous, on le prend ». Et voilà. Ouais.
Alors la grossesse s'est très bien passée dès le départ, donc les 3 trimestres au top, j'ai pas du tout été malade, j'ai pété la forme même, c'était assez hallucinant.
Non,
au
en
top.
Fait elle limite le truc, elle était top canon mortel. En fait elle a eu une grossesse 9 mois nickel,
ouais, c'est
jamais
vrai.
Vomi,
non, franchement.
Jamais de rien, moi qui étais donc ce qui est toujours d'ailleurs sa partenaire de vie, nickel, j'ai eu la Barbara que je connais et que j'ai au quotidien tout le temps. Moi, ça a été le bonheur pendant 9 mois. Limite, j'ai été, je pense, plus chiante qu'elle. Mais vraiment. Zoé, elle va grandir dans une... elle grandit dans une famille homoparentale mixte. Donc déjà, va falloir qu'elle gère ça. Parce qu'elle cumule, mixte, homo, tout ça. Et l'idée, c'est qu'elle voit que le monde, il est divers, en fait. Et que, en fait, ce qu'on pourrait lui montrer comme étant une particularité ou une spécificité, bah finalement, non, c'est juste une diversité dans le monde, quoi, tout simplement. Et c'est ce qui fait la richesse du monde, et c'est ce qui fait la richesse de l'humanité, et c'est surtout ça qu'on a envie de lui transmettre. Puis on veut surtout lui dire que, ouais, que la différence, c'est une force. Et qu'il faut jamais rougir de ce qu'on est, en fait.
Avec nos personnalités, on essaie de lui amener le plus de liberté possible, et voilà, qu'elle soit le mieux, on sait.
Ouais.
Pour moi, l'art, c'est une ouverture vers le monde, vers les autres. Elle dessine énormément, elle est très curieuse, très observatrice. Et c'est vrai que de voir qu'elle aime les couleurs, qu'elle aime peindre, moi, ça me touche énormément. Moi, en tant qu'art-thérapeute, déjà, je le travaille ça dans mon métier, même s'il a encore une autre valeur. Mais de voir que Zoé est sensible à tout ça, oui, ça me touche beaucoup. J'ai hâte de l'emmener faire des expos, j'ai hâte.
Voilà, qu'elle soit
plus grande
fait,
pour
hein,
ça.
Qui est petite.
Ouais.
Tu l'as emmené faire un expo à Savigny, là, ou je sais pas où, là, toute petite.
C'est vrai.
Genre, ma fille va découvrir, là. Parce que moi, j'ai jamais trop compris encore le côté on analyse des tableaux, tout ça. C'est pas encore trop mon truc, même si elle essaye de m'y amener gentiment. Le street art, ça me parle plus, parce que moi, je viens plus d'une culture urbaine. Je suis plus en phase de transmission du street style. Plus. Mets du molleton, mets des baskets avec des jupes, tu vas voir, c'est canon et tout. Mais oui, forcément, je sais que je l'emmènerai avec moi en pérégrination, faire de la photo, se balader dans les rues, se perdre, regarder. Zoé, elle a deux parents qui sont deux femmes, mais on est juste une famille. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de montrer en donnant de la visibilité à notre famille. C'est-à-dire que on se lève le matin, on emmène Zoé à l'école, on discute avec... avec sa maîtresse de la même manière que tous les autres parents, on échange avec les autres parents de la même manière que tous les autres parents, que qu'on va au théâtre, qu'on va au ciné, que des fois on n'est pas d'accord, que des fois elle veut manger du chocolat alors qu'il est 19h et qu'elle va passer à table, que des fois elle prend un biberon le soir et que c'est comme ça, que elle veut pas mettre son pyjama, que voilà, en fait on vit ce que vivent toutes les familles de la terre entière, du monde, de partout, parce qu'on est juste une famille en fait.
Voilà. Et puis pour ajouter que finalement, chacun peut trouver sa place. Peu importe ce qu'on est, comment on vit, le rythme de vie. Je pense que témoigner, c'est aussi montrer que chacun a sa place et qu'on peut la trouver dans la société. Voilà, on choisit.
T'as dit ça trop bien.
Voilà.
J'adore.
Ça crache. Ouais. Alors Zoé, c'est quoi ton jouet préféré? Dans ta chambre.
Type d'archeuse avec un petit cheval.
Ah d'accord, ok. Ah super. Et à l'école, tu préfères faire quoi, de la peinture ou des histoires?
Je préfère quand c'est le week-end et qu'on reste à la maison. Moi, je parle en anglais.
Ah, tu parles en anglais?
Sur les ballons et la princesse de son choix où il est.
Eh, tu peux me le dire maintenant. C'est laquelle des deux mamans qui dessine le mieux?
Allez, 1, 2, 3.
J'adore l'accent anglais de cette petite gamine.
Oui, si, ça me rappelle plein de gens que je connais qui parlent très bien anglais aussi. Bon. Faudrait qu'on la présente à Paola.
Ah oui.
Private joke.
Private joke complet. Intéressant.
C'est super intéressant. Et il est vachement bien fait, ce petit reportage.
Ouais, ouais, ouais. Je t'en proposerai d'autres. Il y en a d'autres comme ça. Et il n'y a rien de mieux, en fait, que des familles prises sur le vif comme ça pour témoigner de, encore une fois, de structures familiales qui sont en train de bouger, qui changent et qui sont là, qui existent.
Ouais.
D'où l'importance, et j'ai envie qu'on termine là-dessus, puisque ces familles sont là. L'importance d'un cadre légal qui permette d'assurer l'avenir de ces familles différentes.
Ouais.
Et pour conclure, je te propose, ça dure une minute, le témoignage d'une militante qui s'appelle Jenna Sell. On la retrouvera la semaine prochaine. Et elle insiste là-dessus, l'importance en fait, à un moment de légiférer.
Des raisons différentes de se paxer, de se marier, de faire des enfants ou d'habiter ensemble. Et tout ça, ce sont des réalités différentes, des mécanismes différents dans la vie. Et il y a des gens qui font des enfants qui habitent pas ensemble, il y a des gens qui se marient qui n'auront jamais d'enfants. Donc toutes ces réalités, elles ne sont pas facilement réductible à un petit moule étriqué binaire qui tient dans un article de code civil. Si on veut pouvoir protéger le plus grand nombre de familles, protéger le plus grand nombre d'enfants, il faut que le texte il soit le moins restrictif possible. Si le souci réel des opposants à l'ouverture du mariage et à l'ouverture de la PMA, c'était vraiment prendre soin des enfants, ils militeraient avec nous pour que tous les enfants qui naissent puissent vivre avec leurs parents. Que tous les enfants qui peuvent naître soient le mieux protégés possible.
Ben voilà, tout est dit.
On s'arrête là ?
Bah ouais.
On se retrouve la semaine prochaine. Salut.